Il était une fois un jeune Breton qui souhaitait ouvrir ses horizons. Choisissant alors de terminer son baccalauréat en histoire de l'autre côté de l'océan, à Sherbrooke, il y restera pour sa maîtrise. À travers ses cours et ses rencontres dans ce pays d'adoption, il s'intéresse à l'humain comme créature sociale, en relation avec ses pairs et son environnement. Il cherche les preuves derrière les idées, confronte leurs racines et leurs effets. Il ne le sait pas, mais une occasion se présentera bientôt qui lui révélera des horizons encore insoupçonnés.
Salut, c'est moi, Madden. C'est la première fois de ma vie que j'anime un balado. Et quelle expérience! À partir de questions que je me pose, il me fait explorer des réponses possibles, multiples, à travers la longue vue des disciplines étudiées dans ma faculté. Pour un peu, je me sentirais comme un de ces célèbres marins bretons, partis naviguer les vastes mers et... je m'emballe, un peu. Envie d'embarquer avec moi? Bienvenue à bord! Vous écoutez Les histoires qu'on se raconte, un balado de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Sherbrooke. Quand les gens me demandent sur quoi porte ma maîtrise, j'opte souvent pour la formule courte. Je leur réponds que je travaille sur le wokisme. Ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est efficace. C'est un terme qui leur parle toujours beaucoup et qui attise leur curiosité. Qui se considèrent woke ou pas. Moi-même, si je comprends certaines revendications attribuées au woke, d'autres me laissent perplexe. En fait, je sais pas vraiment. Alors je me suis demandé, quelles sont les histoires qu'on se raconte sur les woke? La première spécialiste que je suis allé voir, elle s'intéresse aux mots qui piquent. Avec son projet Porc et Pique, elle étudie comment les dictionnaires incluent les mots qui désignent les gens, qui touchent à l'identité, avec toute leur portée et les risques polémiques qui les accompagnent. Je voulais lui demander ce que signifie woke et comment on l'utilise au Québec. Disons que... elle n'a pas mâché ces mots.
Sincèrement, ce mot devrait être éliminé parce qu'il ne veut plus rien dire.
Bon. Vous pensez bien, elle n'a pas dit que ça. En fait, Nadine Vincent, professeure au département de communication, en a long à dire sur l'essence du mot « woke ». Et ça passe par un détour dans les pages des dictionnaires.
Dans USITO, dans le GDT, le Grand Dictionnaire Terminologique de l'Office de la langue française, dans le Wiktionnaire, dans le Larousse et dans le Robert. Maintenant, tout le monde l'a attesté. Et j'ai rarement vu un mot avec autant d'indications de précaution dans les dictionnaires. D'abord, le Wiktionnaire, qui est un dictionnaire collaboratif, donc la définition a changé 3 fois de mai 2021 à juin 2022. Et la première fois, la définition était très améliorative, même s'il y avait une citation de Mathieu Bocoté avec un sens très péjoratif. La deuxième fois, la définition était devenue très péjorative, mais il y avait encore des citations amélioratives. Et la troisième fois, là, ils ont essayé de viser à peu près au milieu. Donc, on sent que ce mot est très insaisissable et que c'est difficile dans des dictionnaires comme le Larousse et le Robert, qui ont comme contrainte importante l'espace, de limiter les définitions qu'ils donnaient du mot « woke », mais en disant, dans le Robert... surtout utilisé par dénigrement de façon péjorative et dans la rose en précisant « oui, mais habituellement, c'est utilisé par telle personne avec tel sens ». Donc, ils ont mis des bémols et ils ont mis des remarques partout. Moi, quand j'ai essayé de le définir parce que dans mon projet de recherche, c'est ce que j'ai à faire, l'objectif, c'est justement d'essayer de mettre tous les sens possibles, de comprendre chacun des débats et de comprendre chacune des interprétations qu'on peut lui donner. Je me suis limitée à « woke » désignant un humain et j'ai, je ne sais pas combien j'en ai, j'ai au moins 8 définitions, je pense, qui désignent les Afro-Américains. Après, qui désignent les Afro-Américains et leurs alliés, qui désignent ceux qui sont contre la discrimination de tel groupe. Donc, plus ça va, c'est comme un entonnoir à l'envers. Là. Plus ça va, plus on élargit les personnes qui peuvent se considérer comme « woke ». Et après, de l'autre côté... leurs adversaires qui commencent par les attaquer parce qu'ils sont contre le système. Et là, ils sont contre le patriarcat, le colonialisme, ils sont contre l'indépendance du Québec, ils sont contre le capitalisme. Donc, ils veulent détruire le système, ils sont pour la culture du bannissement, et ils sont des petits curés. Je fais des guillemets avec mes doigts en ce moment. Donc, dans la bouche de l'adversaire, chaque fois que c'est un empêcheur de tourner en rond, c'est un woke. Et dans le Journal de Montréal, c'est même plus drôle. On se demande s'il manque de synonymes, parce que woke est là tous les jours abondamment.
Nadine qui nomme le Journal de Montréal, ce n'est pas anodin. Pour identifier toutes les définitions possibles, elle décortique un ensemble de textes pertinents qu'on appelle un corpus. Il inclut souvent des articles de presse, parce que ces textes sont disponibles rapidement et représentent l'actualité à un moment donné. J'ai voulu savoir comment woke était utilisé dans les journaux du Québec.
Il est abondamment utilisé dans le Journal de Montréal, beaucoup moins dans la presse et le Devoir, et pas avec les mêmes connotations, et souvent dans la bouche de personnes interviewées, mais beaucoup moins gratuitement sous la plume des journalistes. Et dans le Journal de Montréal, c'est pas les journalistes généralistes qui l'utilisent, ce sont les chroniqueurs. Je pense que c'était à l'automne 2021 quand François Legault a traité Gabriel Nadeau-Dubois de woke. Mais là, tous les journaux ont titré « Mais qu'est-ce que ça veut dire woke au juste? » Il n'était pas encore dans les dictionnaires. Et là, tout le monde savait bien que c'était pas une gentillesse que François Legault venait de dire, mais personne ne comprenait exactement ce que ça voulait dire. Et quand on a demandé à François Legault ce que ça voulait dire, lui-même a patiné un peu, a proposé une définition, on a finalement proposé une autre qui a fini par être contre les valeurs du Québec, qui nuit à notre identité nationale et tout ça. Donc, pour la population québécoise, ça a été un moment charnière où tout d'un coup, ce mot-là a pris une résonance particulière, mais qui était une insulte, clairement. C'était pas quelqu'un là, qui revendiquait son identité de woke. Parce que, bon, il y a eu tout le beau wokisme et tout ce que ça avait d'intéressant comme ouverture d'un nouveau dialogue. Et je pense que dans les excès de cette gauche bien-pensante, là, tout d'un coup, les contre-coups sont arrivés. Et bon, quand Mathieu Bocoté et François Legault utilisent ce genre d'argument, c'est une espèce de point Goodwin de la conversation. Une fois qu'on a dit « woke », il n'y a plus moyen de dire autre chose. C'est un refus de considérer que vous êtes un interlocuteur valable. Jamais les gens de la gauche traditionnelle, je pense, et de la droite certainement, ne disent « j'ai bien envie d'avoir une conversation avec un woke ». Si on dit « il est woke », c'est « il n'a rien à dire, nous n'avons rien à nous dire, il n'écoute pas et il ne me convaincra de rien, donc ce n'est pas un interlocuteur pour moi. » Et ce n'est pas un interlocuteur, un acteur valable dans la société. Et ça me fait penser aux différentes étiquettes qu'on a données aux indépendantistes au Québec, que les fédéralistes appelaient des séparatistes. Les indépendantistes ne se disaient pas eux-mêmes séparatistes, mais séparatistes, on sentait le poids, on sentait l'opprobre, on sentait à quel point c'était des méchants. Et là, on sent une récupération chez les woke, chez les gens qui se disent de gauche et contre la discrimination et tout, et qui disent justement, avec un peu d'autodérision, mais aussi une affirmation de ce qu'ils sont, « Ben moi, je suis woke ». C'est un processus habituel dans les langues de récupérer le mot « insulte » pour en faire, pas un signe de fierté, mais oui, une bannière qu'on porte fièrement, en disant « oui, j'assume tout à fait ce que je suis et ce qui vous dérange ». Le mot « queer » est un classique dans ce cas-là.
Oui, ça me rappelle tout simplement le mot « geek » aussi. Oui. « Geek » qui était très disqualifié à l'origine, mm-hmm, et qui aujourd'hui est devenu un terme assumé. Donc, là,
tout à fait. Parce que la caractéristique du mot « woke », c'est arrivé pour d'autres mots dans la langue française, mais jamais avec cette rapidité-là, c'est sa capacité à avoir pris plusieurs sens qui cohabitent.
On peut peut-être dire alors que les débats sur le mot « woke » soulèvent, opposent même différentes manières de voir la société et les changements à provoquer, ou non, notamment en ce qui a trait aux identités. Mais qu'est-ce qu'ils apportent, ces débats sur le mot « woke » ? Quand je lui ai posé la question, Nadine m'a signifié que, peut-être, on en demande beaucoup à la langue.
Il y a 20 ans, je disais aux étudiants « te », aimez-vous mieux la féminisation des textes ou l'équité salariale ? Je veux bien, moi, qu'on serve de la langue pour tous les combats du monde, mais est-ce qu'on peut régler les questions sur le terrain et la langue suivra ? Oui, nous voulons tous une planète en paix et que tous les humains s'aiment, mais est-ce que vous êtes capable, autour de la table, le soir, en famille, de ne pas vous chicaner? Non. Donc, on va essayer de trouver une autre façon de vivre ensemble.
Trouver une autre façon de vivre ensemble? D'autres outils que la langue pour porter les réflexions sur la manière dont différents groupes sont traités dans notre société? À ce moment-là, je me suis dit que ça avait sûrement déjà été fait. Après tout, le Québec maintenant est différent de celui d'il y a 10, 15, 40 ans. Nadine elle-même a évoqué les luttes souverainistes. Alors, de quoi est faite, concrètement, l'histoire des luttes sociales au Québec ? Je me suis tourné vers une spécialiste de la question.
Louise, bienvenue. Professeure ici au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke depuis 2001. Je suis spécialiste de l'histoire du Québec, essentiellement des 19e, 20e siècles. L'histoire des femmes, qui est vraiment mon premier amour. Mais je me suis aussi intéressée à l'histoire d'éducation, au mouvement de jeunesse et aussi à la rééducation des délinquants.
Je lui ai demandé quelles étaient les luttes sociales marquantes au Québec. En d'autres mots, je cherchais à savoir qui étaient les woke d'hier.
Quand on pense aux mouvements sociaux, là, avec l'expression consacrée, on se réfère beaucoup à l'ère industrielle, hein, parce que si on veut remonter plus avant, on pourrait dire dans l'histoire du Québec, il y a toujours eu des mobilisations, des révoltes paysannes, populaires, etc. Mais le phénomène d'urbanisation, d'industrialisation qui est propre à la toute fin du 19e siècle encourage de nouveaux mouvements sociaux. Et on pense immédiatement au mouvement syndical. C'est peut-être le mouvement là, le plus emblématique de cette façon de contester le pouvoir, pouvoir économique, pouvoir politique, de cette façon aussi de revendiquer pour un certain nombre d'individus, pour certains groupes là, qui se rallient autour d'une même identité, l'identité de travailleur, l'identité d'ouvrier, et de faire pression, de mettre en marche des moyens d'action afin d'obtenir des meilleures conditions, plus de justice sociale, plus de protection aussi au niveau des maladies industrielles ou des accidents qui survenaient beaucoup à cette époque-là. Mais moi, je suis attachée particulièrement à un mouvement qui émerge à peu près à la même époque, c'est le mouvement des femmes. Dès la fin du 19e siècle, on voit apparaître des revendications de femmes, des femmes qui appartiennent beaucoup à la bourgeoisie, même à la haute bourgeoisie à cette époque-là, et des femmes qui revendiquent des droits pour elles, beaucoup plus d'autonomie. Sur le plan légal, elles sont à cette époque-là associées à des mineurs. Hein. Elles n'ont pas le droit de vote, mais elles ont aussi, elles sont privées du droit à la propriété. Elles ne peuvent pas avoir un compte de banque à leur nom. Au fédéral, les femmes ont droit de vote dès l'année 1918, toutes les femmes de 21 ans et plus. Mais chaque province devait aussi légiférer. Et au Québec, il y a eu vraiment beaucoup de résistance à reconnaître ce droit-là. Et ce n'est qu'en 1940 que les femmes gagneront en fait ce fameux droit de vote qui en fait des citoyennes comme les autres. Donc, il y a une importante mobilisation qui se forme à ce moment-là et qui est l'ancêtre des revendications qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est la première vague du féminisme, comme on l'a souvent dit. Les années qui suivent la Révolution tranquille, là, rappelons que cette Révolution tranquille commence à partir de 1960, mais je dirais qu'à la fin de cette décennie des années 60, on assiste à une vraie ébullition. Hein. Ce sont des années qui sont marquées par l'arrivée d'une génération à l'âge de la jeunesse, presque à l'âge adulte, c'est les fameux « baby boomers » dont on entend si souvent parler. Et ils ont non seulement la force du nombre, mais ils ont aussi un certain nombre d'avantages en leur faveur comme acteurs sociaux. Et cette masse de jeunes, plus scolarisés, nés dans l'après-guerre, nés avec cette idée qu'il faut réinventer le monde. Le monde est une page blanche sur laquelle on peut écrire l'histoire et que l'ancien monde, celui d'avant-guerre, est vraiment dépassé dans les années 60-70 à travers différents engagements. On est dans un contexte de mouvement national au Québec, bien sûr, et je pense que ça domine vraiment le paysage politique, l'affirmation des francophones. On est dans un esprit de décolonisation, c'est comme ça qu'on le perçoit à l'époque, s'affranchir du joug anglophone britannique, du capital anglophone britannique et s'affirmer comme peuple canadien-français. Donc le mouvement nationaliste québécois va vraiment être mis de l'avant. Du côté des femmes, agitation aussi. On pense beaucoup aux années 60, à la libération sexuelle, à l'arrivée de la pilule anticonceptionnelle et aux revendications pour le libre droit à disposer de son corps, là. Accélération de la réflexion critique aussi, en bonne partie menée par des étudiantes aussi, il faut le dire. Quand j'étais étudiante, moi, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais dans les assemblées étudiantes, il y avait les micro-hommes, micro-femmes qui faisaient en sorte que les tours de parole soient en alternance, puisque la tendance était à la mobilisation de la parole par les jeunes militants masculins, frondeurs, sans peur et sans reproche. Les femmes avaient quelque chose à conquérir du point de vue de la confiance, du point de vue de la parole, et il y avait des démarches pour faciliter ça. Il y a toujours eu des comités féministes aussi au sein du mouvement étudiant. Des jeunes femmes scolarisées, souvent précisons-le, dans des disciplines de sciences humaines, de sociologie, de sciences politiques, d'histoire. On a des fois l'impression que les années 60, c'est un âge d'or, tout le monde avait une pancarte à la main, tout le monde était remonté, remué par tous les événements qui se passaient. Non, il y avait une très grande majorité de jeunes qui travaillaient déjà, qui regardaient de haut ces hurluberlus, ces hippies, qui avaient un jugement critique à l'endroit des militants, militantes de cette époque-là. Ça, c'est important de se le rappeler parce qu'il faut éviter de regarder le passé avec des yeux un peu trop, soit roses ou avec un regard trop manichéen. Ces mouvements-là qu'on voit émerger aujourd'hui sont en continuité avec des luttes antérieures. Et souvent, on a des rappels aussi des anciennes mobilisations. Les militants eux-mêmes se réfèrent à ce qui se passait dans les années 60, établissent des généalogies, des prolongements. Là où la différence est frappante, peut-être, c'est la place que peut occuper, par exemple, la question nationale dans le paysage politique. On associe beaucoup la défense du fait français, de la langue, la défense de la réalité française en Amérique à une lutte d'arrière-garde, une lutte menée par des vieux nostalgiques. Au fond, cette lecture que faisaient les Québécois francophones d'avoir été colonisés, on leur sert un contre-argument. On leur dit « Vous pensiez que vous étiez des colonisés, mais sachez que vous êtes des colonisateurs. » Et là, on montre à l'appui de bons exemples. On leur montre, au fond, les limites de leur acceptation de l'autre, de leur ouverture. C'est peut-être ce retournement-là qui fait la grande différence et peut-être aussi la polarisation qu'on observe aujourd'hui. Et j'ai surtout envie qu'on puisse se parler de nos jours. Je crois que c'est ce qui manque. C'est la difficulté, et je pense qu'on en est tous un peu responsables de ce climat de polarisation qui fait que souvent, même si on est à la recherche des mêmes buts, même si on n'a pas la même vision du changement social très exactement, même si on n'a pas les mêmes moyens d'action, souvent, quand on se parle, on se rend compte qu'on a quand même des visées similaires et des valeurs similaires. Alors moi, je cherche dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, à développer ce discours, cette possibilité d'échange, et je trouve vraiment que c'est important aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas penser à la fois la défense d'une réalité française en Amérique et l'accueil, l'ouverture à l'autre, penser la diversité au sein de cette société et de cette nation même. Je pense que le mot « nation » n'est pas à bannir. C'est sûr que le Québec a une particularité, c'est celle de défendre une réalité linguistique et culturelle minoritaire. Donc, ça fait toujours partie de l'équation, quelles que soient les autres luttes auxquelles on pense. Cette volonté de se tenir en tant que peuple, parce que la défense de cette minorité-là repose beaucoup sur la solidarité que les membres de la communauté peuvent entretenir entre eux. Donc, si le collectif se fractionne trop, il est moins fort pour se défendre en tant qu'entité globale. Et ça, forcément, ça a des incidences sur les autres types de luttes. Il y a un travail de conciliation entre la volonté de défendre l'entité globale et de défendre les particularités identitaires. Et c'est plus difficile dans un contexte de société minoritaire. C'est vrai au Québec, c'est vrai dans les minorités canadiennes françaises. Pas parce que les gens sont donc réactionnaires, pas parce que les gens sont pas capables de s'adapter à la modernité, mais parce qu'ils sont très conscients que la société des identités est susceptible de les faire disparaître comme collectif, et c'est pas rien. On n'est pas nécessairement obligé d'adhérer à leur vision des choses, mais on peut essayer de comprendre en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur, ces réalités-là.
À ce point de notre entrevue, Louise aborde un sujet qui m'interpelle beaucoup, soit les tensions entre individus, groupes et sociétés, et la polarisation qu'elle risque d'entraîner. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, comme historienne, oui, mais aussi comme citoyenne.
Je pense qu'il n'y a pas de changement social sans mouvement, sans affirmation forte, sans volonté d'accélération du changement. Je vois ça comme une condition de base. Et je pense que quand on observe dans la profondeur historique les mouvements de transformation des sociétés, il y a toujours une part de radicalisme. Et par ailleurs, il y a toujours aussi un travail souterrain qui se fait par des forces plus réformistes, plus capable d'aller convaincre les couches de société moins enclines au changement. Je pense qu'il y a une combinaison du réformisme et du radicalisme. Je pense que ces deux forces-là, qui souvent s'affrontent et se chicanent, sont en réalité partenaires dans la transformation des sociétés. Mais puissance, militance, affirmation, ça va souvent de pair avec confrontation, avec dialogue de sourds, avec affrontement. Et c'est là où il y a, je pense, un équilibre à trouver. C'est bien abstrait et j'ai l'air de me poser au-dessus de la mêlée alors que je ne suis pas du tout. C'est des questions qui m'habitent, qui me font beaucoup réfléchir ces temps-ci, comme tout le monde. Mais je suis préoccupée par le fait qu'à un moment donné, on puisse plus parler, qu'on se parle à travers des étiquettes, que dès le moment où on émet une objection, subitement, on est ceci ou cela. Mais ce travail de distribution d'étiquettes, il est au final assez dommageable, je pense. Parce que, au fond, ce à quoi on aspire, c'est une société plus harmonieuse, plus ouverte. Et ça passe par des œufs brisés, parce qu'on fait une omelette peut-être, mais souvent on en brise beaucoup. Et ça devient difficile de bien digérer au terme du parcours culinaire, si je puis filer la métaphore.
Ce que vous entendez là, c'est le son de 70 étudiantes et étudiants de troisième année au baccalauréat en travail social. Faire du travail social, c'est intervenir auprès de personnes ou de groupes plus ou moins grands et les appuyer pendant qu'ils développent les outils pour participer à leur pleine capacité à une société qui, disons-le, change vite. Alors vous imaginez bien que les tensions et enjeux sociaux, ce sont des questions importantes dans leur pratique et leur formation. Tellement importantes, en fait, que le groupe que vous entendez en ce moment assiste au cours TRS 304, Analyse du social et des problèmes sociaux, donnée par le professeur Jacques Caillouette. Je suis allé les voir pour découvrir ce que leur inspirait l'étiquette woke, les luttes sociales ou même le militantisme. Comme vous vous en doutez, je n'interviewe pas 70 personnes tous les jours, alors j'étais un peu stressé. Si vous étiez dans la classe le jour de l'enregistrement, merci pour votre accueil, votre écoute et votre générosité. Maintenant, la parole est à vous.
Ben pour moi, être woke, c'est de dénoncer un peu les systèmes ou les structures qui sont inéquitables, qui sont inégalitaires. Je pense que comme tout mouvement, par contre, parfois c'est utilisé ou c'est polarisé, puis c'est un petit peu mis à son extrême. S'il y a des gens qui vont vraiment utiliser ce terme-là pour définir des gens qui sont à l'extrême de ce mouvement-là, t'sais, qui vont parler de cancel culture. Je pense que comme tout mouvement, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus nuancé.
Si on traduit « être woke », c'est être éveillé. En ce moment, c'est surtout un terme qui est utilisé par la droite de façon péjorative pour les gens considérés dans l'extrême. Mais moi, personnellement, me faire dire que je suis woke, ça me dérange pas. Je le considère pas comme une insulte parce que moi, je considère que je suis éveillée à ça puis que j'ai pas de la difficulté à le dénoncer.
La dérive, ça serait de pas être capable d'écouter le discours de l'autre. Donc, si tu vas à l'extrême gauche, de pas être capable d'écouter ce que la personne de droite te dit, je pense que là, c'est une dérive parce que de fermer le débat puis de t'enfermer dans tes idées, c'est pas la démocratie, c'est pas d'écouter l'autre. Donc,
t'sais, oui, je me considère sensible à tout ce qui est question de justice sociale, tout ça, mais je vais jamais me considérer pleinement consciente de mes biais, de mes préjugés. Je suis ouverte à être choquée puis à être confrontée à ça, mais je me considérerai pas woke parce que je suis pas consciente de tout ce qui se passe puis de toutes les injustices qui se vivent dans le monde, puis je suis pas bien placée nécessairement en tant que femme blanche pour me dire pleinement éveillée.
Il faut pas taire toute la question qui est plus globale de la redistribution des richesses, la distribution inique des richesses. Alors, comment vraiment créer un mouvement d'émancipation plus large que seulement une mosaïque de mouvements sociaux.
Cette idée en rejoint une abordée par Louise, la force du collectif et la crainte légitime de ses membres de voir le poids du groupe s'effriter, émietter entre différentes luttes identitaires. Ce que soulève le professeur Jacques Caillouette, que vous venez d'entendre, c'est l'idée de combiner ces luttes d'une manière qui reste encore à inventer. D'ici là, que faire face aux inégalités ou aux crises sociales, dès lors qu'on en a conscience?
Moi, je pense que qu'est-ce qui est important comme futurs travailleurs sociaux, ça va jamais de s'asseoir sur comme notre expertise acquise, puis de pas comme cristalliser notre pensée. On va acquérir avec le temps comme de l'expertise, on va avoir de l'expérience, mais de toujours garder cette espèce d'esprit critique-là qu'on développe justement à l'université, puis de continuer d'être curieux, continuer de chercher à en apprendre davantage. On sait des choses, mais on sait comme rien aussi en même temps. Cette humilité-là devant comme la complexité humaine puis la complexité des enjeux sociaux, je pense qu'elle est primordiale, là, personnellement.
C'est d'être capable d'avoir la réflexivité, de reconnaître ses privilèges, puis de reconnaître la structure qu'on a en tant que société. Qu'est-ce qu'on considère comme normal? Qu'est-ce qui est moins normal? Qui est qu'on considère comme meilleur? Je pense que c'est surtout une question de la réfléchir, comment on construit notre société.
Là, comme Louise a abordé le rôle des jeunes dans les mouvements sociaux et que j'en ai plein devant moi, j'ai eu envie de leur demander leur avis. Est-ce que cette réflexion-là sur la société change selon les générations? À partir de quoi évolue notre perception de ce qui est normal pour la société?
Effectivement, les jeunes, j'ai l'impression que souvent, on est comme un peu... On a une vision de l'avenir, tu sais, on a moins d'expérience dans la vie, on a moins de blessures peut-être aussi des fois, ce qui fait en sorte que on est plus combatif, on est plus prêt à mener au front nos idées. Souvent, tu sais, on est aux études, on a le temps de s'investir ou on pense qu'on a plus le temps. Mais je pense que c'est pas nécessairement une question de génération parce qu'il y a des personnes qui sont pas nécessairement jeunes puis qui s'investissent beaucoup plus que d'autres jeunes. Mais on s'informe plus régulièrement parce qu'on est moins dans une boîte de notre routine avec la famille, le travail, etc.
Je pense que ça vient peut-être un peu aussi de la socialisation. En tant que telle, on vit dans une génération où on se fait expliquer les inégalités, où on met en... Tu sais, on explique le racisme, on dit c'est quoi le racisme, l'homophobie, tout ce qui vient avec, puis tout ça. Puis je me dis, ben je pense pas que les personnes âgées, dans leur temps, c'était des discussions qui étaient autant sollicitées. Fait que je pense que ça a quand même une influence sur nous après de voir toutes ces inégalités-là, de les comprendre, de savoir d'où ils viennent et tout ça.
J'apporterais peut-être un point de vue d'une autre génération, un petit peu plus âgée. En fait, sans que la justice sociale, on ne se dédie pas totalement à temps complet, on a une expérience de vie, on peut l'analyser d'une façon différente, mais aussi, pour certains, on est des parents, fait qu'on est des personnes qui peuvent sensibiliser les prochains. On peut éduquer, on peut influencer.
L'éducation, oui, mais je pense que le contexte est le lieu. En ce sens où, M. Caillouette nous en a parlé, mais si on n'a pas d'espace citoyen où on peut se rassembler pour discuter, débattre, apporter des points, c'est difficile d'embarquer dans un mouvement de débat et de lutte pour la justice sociale. Au cégep, à l'université, c'est des lieux de rassemblement. Il y a une influence positive qui peut se faire à travers l'effet de groupe qui donne un lieu plus propice pour les jeunes, entre guillemets, à s'impliquer et à vouloir débattre puis à vouloir se battre.
Mais je pense qu'il y a aussi d'autres barrières comme tes capacités physiques. J'ai de l'expérience avec des familles immigrantes qui sont justement invisibilisées puis qu'on ne les entend pas parce qu'il y a la barrière de la langue. Puis même s'il n'y avait plus cette barrière-là, est-ce qu'ils peuvent s'exprimer? Puis si tu as 8 frères et sœurs, puis tu as plein d'activités, puis tu as ton horaire rempli, ou si tu es une maman qui a des lunchs à faire pour tous ces enfants-là, est-ce que tu as vraiment la place dans ta vie pour te mobiliser, même si tu es une des personnes les plus touchées? C'est pour ça aussi qu'il y a des travailleurs sociaux, puis qu'il y a tellement de professionnels pour les aider, ces personnes-là, à comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, puis à être là pour eux, parce que toutes seules, peut-être qu'ils peuvent pas, tu sais.
Peut-être là-dessus, sur l'individuel, le collectif, on disait le politique est dans le privé aussi. Nos problèmes vécus individuellement ont souvent une dimension collective aussi. Alors, c'est pas nécessairement d'amener les individus dans une militance, mais comme intervenant, d'avoir ce regard sociologique-là sur les problèmes vécus par les personnes et de ne pas s'en tenir à une lecture que psychologique, voire médical. Il y a des rapports de pouvoir dans la société, je pense qu'il va toujours en avoir, mais d'amener la personne à se situer là-dedans.
Au bout du compte, ça va être, c'est vraiment à eux que ce pouvoir-là appartient. Puis moi, je vais juste comme leur donner un petit coup de pouce, comme on dit, mettons. Donc, je pense que ça serait là le pouvoir. Si moi, personnellement, mettons, je trouve que j'ai du pouvoir, tout seul, non. Surtout pour des grosses luttes comme ça. T'sais, je veux dire, c'est sûr que des petits trucs qu'on fait en individuel, ça amène à quelque chose. Il faut partir de quelque part, mais mettons, moi, tout seul, j'ai la misère à voir que je préfère un grand changement.
Moi, je vis une dualité entre un peu, j'avoue, un côté cynique qui me dit « qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Les problèmes sont si grands, sont si gros. » Un peu dans moi toute seule, comment je pourrais faire une différence? Puis en même temps, dans une autre vie, j'ai participé à des luttes, j'ai marché et j'ai fait changer, ben pas j'ai, moi, là, nous avons fait changer des choses. Par exemple, l'amélioration des conditions salariales des éducatrices en CPE. Mais même comme seul individu, on peut faire une différence parce que nous, on y croit, puis qu'on en parle, puis qu'on en reparle, puis qu'on en reparle, ben on peut inspirer, puis en inspirer un autre qui va inspirer un autre, puis ainsi de suite.
Mais il y a aussi, c'est ça, mon autre côté d'espoir, puis de, j'essaie de nourrir toujours cet espoir-là que, ben on peut faire des changements justement en parlant, puis en tranquillement, en mobilisant les autres comme un effet de chaîne. Fait que c'est ça, il y a comme... Non, j'ai pas tant de pouvoir, je me sens pas que j'ai du pouvoir, mais j'ai vraiment beaucoup d'espoir. Puis il suffit de le nourrir, cet espoir-là, pour comme que ça continue, puis qu'on les fasse, ces changements sociaux-là.
Parfois, justement, ça prend beaucoup de place, les questions de justice sociale. Mon exemple, le seul que j'ai, c'est la justice environnementale, qui est vraiment une question qui est de plus en plus présente. On peut avoir peut-être justement une vision un petit peu plus fataliste, pessimiste, puis sentir qu'on n'a pas le pouvoir. Mais je pense que dans la vie, il faut que tu incarnes le changement que tu veux voir individuellement.
Au niveau de l'implication, ben là, moi, je vais parler vraiment très personnellement. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intrinsèque, donc propre à chaque individu, et elle n'est pas la même. C'est pas parce que t'es pas dans la rue avec ta pancarte en train de crier que t'es pas en train de participer à la lutte pour la justice sociale.
OK. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en les entendant, j'ai été projeté à des milles du cliché du woke qui n'entend rien, ne transige pas, mais qui exige, loin des petits curés tirés des définitions recensées par Nadine. J'ai été frappé par les nuances et les capacités d'introspection qui se dégageaient des interventions, probablement nourries par leur formation et leurs expériences. Mais est-ce que formation et expérience font vraiment tout? La dernière étudiante qu'on a entendue parle d'une motivation intrinsèque qui s'exprime différemment pour chaque personne. J'ai eu envie de pousser cet aspect un peu plus loin. Jean Descoteaux, professeur au département de psychologie, s'intéresse, entre autres, à la personnalité et au processus motivationnel. D'entrée de jeu, il a été clair. Établir des liens entre engagement militant et personnalité sort de son cadre d'expertise. Mais il a accepté de brosser un portrait général pour me permettre d'identifier moi-même des pistes de réponse. Il m'a parlé d'abord de deux niveaux pouvant déterminer le comportement des individus. Des traits de personnalité, étudiés d'abord par Gordon Allport, et des motifs que la psychologie doit à Henri Murray.
Les traits de personnalité, aujourd'hui, on se les représente. On a beaucoup travaillé sur le sujet là, après les contributions d'Allport. On se les représente habituellement en 5 dimensions. On parle, par exemple, de l'extraversion. Donc, on peut comparer une personne extravertie à une personne introvertie. Une autre dimension consiste en ce qu'on appelle le névrosisme. Donc, une espèce de prédisposition à réagir négativement à toutes sortes de situations. On a aussi l'ouverture, donc jusqu'à quel point les individus sont ouverts ou fermés, par exemple, à de nouvelles expériences. On a l'agréabilité, alors jusqu'à quel point on a tendance à entretenir des contacts chaleureux ou pas avec les autres, et finalement l'aspect consciencieux ou pas. Alors, est-ce qu'on est vraiment concentré sur la tâche et qu'on veut bien la faire du début à la fin, ou bien on est un peu brouillon. Ce sont des exemples. Il y a toutes sortes de facettes associées à ces grandes dimensions-là. Murray disait, c'est pas une bonne idée de concevoir la motivation ou enfin les déterminants du comportement de cette façon-là. Pourquoi? Parce que deux comportements peuvent répondre, par exemple, à des besoins différents. Donc, d'aller vers les autres, ça peut être d'une part par un besoin d'affiliation, par exemple, mais ça peut être aussi parce qu'on est choqué contre l'autre personne, ça peut être aussi parce qu'on veut exercer du pouvoir sur l'autre personne, et ainsi de suite. Donc, des comportements comme l'extraversion ne relèvent pas nécessairement des mêmes motivations. Et c'est là qu'il est arrivé avec sa notion de motif. Et aujourd'hui, on en reconnaît 3 d'ordre supérieur. Le pouvoir, donc jusqu'à quel point on veut exercer du pouvoir sur l'autre, et l'autre étant possiblement un individu ou un groupe. Il y a la filiation, donc jusqu'à quel point on veut s'affilier avec l'autre personne, agir en proximité avec l'autre. et il y a l'accomplissement jusqu'à quel point on veut se réaliser. Règle générale, on considère que la motivation de l'individu est beaucoup mieux représentée par les motifs que par les traits de personnalité, mais en même temps, on considère que c'est vrai qu'il y a des différences entre les individus sur le plan des traits, de sorte que les motifs s'expriment à travers ces différences-là. Donc, quelqu'un, par exemple, qui aurait un motif au pouvoir élevé, aurait tendance à percevoir les situations en termes de possibilité d'exercer du pouvoir. Mais quelqu'un qui aurait un motif au pouvoir élevé, qui serait extraverti, irait vraiment vers les autres, alors que quelqu'un qui serait un peu plus introverti, tout en ayant un motif au pouvoir élevé, irait plus de façon détournée, indirecte, dans les coulisses et ainsi de suite.
Quand j'écoute Jean, je m'imagine 8 curseurs colorés sur un gros tableau de bord. Chaque curseur représente un trait de personnalité ou un motif. Et chacun est réglé un peu différemment chez tout le monde. Ces variations, parfois minuscules, parfois immenses, expliquent en partie nos personnalités distinctes. Peut-être que certaines combinaisons créent des personnalités plus enclines à s'intéresser ou à participer aux mouvements sociaux. Par exemple, un fort motif à l'affiliation, une espèce de désir d'appartenance très développé, jouerait un rôle dans l'adhésion de plusieurs jeunes aux mouvements de contestation. Peut-être qu'un important motif au pouvoir ou à l'accomplissement pourrait intervenir chez d'autres. Que ces motifs s'expriment différemment selon nos traits de personnalité appuie l'étudiante de travail social qui soulevait les différences dans notre engagement. Au cours de notre discussion, Jean a mentionné que les traits de personnalité et les motifs étaient assez stables au cours d'une vie. Ils se fixent tôt, voire sont considérés comme innés. Comme certaines personnes s'investissent dans les luttes sociales quand elles sont plus âgées, j'ai voulu savoir. Existe-t-il un niveau de la personnalité qui change au fil de la vie et qui joue un rôle dans nos comportements? C'est à ce moment-là que Jean m'a parlé de l'identité narrative.
Essentiellement, c'est la façon dont un individu rend compte de ses expériences pour expliquer ce qu'il considère être dans le moment présent. Donc, l'identité réfère à la façon de se définir et cette couche-là, notamment, serait tributaire du sens que l'on donne à sa vie, de ce qu'on désire accomplir et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme une histoire où on construit, ben voici comment ça a commencé et voici comment ça mène à ce que je suis aujourd'hui et qui oriente ce que je veux pour mon futur. Ce qui nous définit, c'est vraiment pas la nature objective des événements, c'est vraiment comment on les a vécus. Et quand on est capable de tisser une espèce de, un genre de filet qui englobe plusieurs de ces expériences-là, par exemple, jusqu'à quel point ça se répète et qu'éventuellement on arrive à considérer que ça ne peut pas être juste ce qui se passe dans l'environnement qui est responsable de ce qu'on ressent, mais il y a peut-être des constantes là-dedans et donc que ça parle de nous. Et à ce moment-là, on est capable de faire des liens qui nous amènent à percevoir ce qu'on pourrait qualifier de biais de perception. Et là, on apprend à se connaître à travers ça. Il y a certains individus qui ont une conscience relativement élevée de leur parcours et qui ont une certaine habileté à faire du sens avec toutes les expériences qu'ils ont traversées et ont une conscience de la façon dont ça les a affectés. Donc, à se représenter tout leur parcours en termes d'effets que ça a eu sur leurs affects, sur leur façon de penser, sur leur façon de ressentir et ainsi de suite. Certainement que l'identité narrative s'appuie sur les deux couches précédentes, mais elle s'en distingue dans la mesure où elle constitue une couche qui ajoute, on pourrait dire, une certaine conscience de soi chez les individus. Alors, par exemple, on peut être extraverti, on peut avoir tendance à rechercher le pouvoir, mais avoir pas tellement une conscience d'où on vient et vers où on va. Un exemple typique serait Donald Trump, où on a l'impression qu'il a une conscience d'où il vient et vers où il s'en va relativement limitée. Alors, il y a d'autres individus qu'avec les mêmes paramètres extravertis, tendance à rechercher le pouvoir, seraient en mesure de bien se représenter la façon dont tous les événements qu'ils ont vécus influencent leur façon d'être. Et ces gens-là auraient probablement une meilleure représentation des raisons qui font en sorte qu'ils poursuivent une direction donnée pour leur futur. Ce qu'on a tendance à considérer, c'est que les expériences négatives, de façon générale, on a tendance à essayer de s'en éloigner le plus possible. donc à ne pas s'en souvenir. Éviter les situations qui nous rappellent des événements qui ont pu être douloureux dans le passé, et ainsi de suite. Une partie, on pourrait dire, des efforts en psychothérapie consiste à accéder à ces événements-là plutôt qu'à tenter de les éviter parce qu'ils renferment des informations importantes quant aux besoins que l'individu ne réussit pas à combler. Et quand on maintient cette espèce de dissociation-là ou cet éloignement-là, ben on se coupe un peu d'une partie de soi-même qu'on n'est pas en mesure d'intégrer à sa personnalité. Et quand on parle d'identité narrative qui est bien représentée, qui est bien développée, ben justement, c'est qu'on arrive à faire du sens avec l'ensemble, on en fait une grande partie des expériences qu'on a vécues dans le passé. Et de voir à quel point ces expériences-là ont pu être douloureuses dans le passé, mais par ailleurs, ne nous définissent pas entièrement. Et à travers la psychothérapie, lorsqu'on se permet, lorsqu'on crée les conditions où on peut y accéder, par exemple en repérant les mouvements d'éloignement qui nous viennent de façon automatique, on pourrait dire, on est capable ensuite d'accéder à ce qu'on a tendance à vouloir éviter. Et à partir de là, on peut creuser de façon à se représenter qu'est-ce qu'on essaie d'éviter et pourquoi et en quoi c'est important. Ça parle de nous et ça peut témoigner de besoins qui demeurent insatisfaits. Et comment on intègre ensuite la satisfaction de ces besoins-là dans nos comportements ultérieurs.
En résumé, l'identité narrative, c'est l'histoire que vous et moi, on se raconte à propos de nous-mêmes. Chacun et chacune a une capacité variable à y arriver. Encore là, un curseur, mais celui-là peut se modifier si on y travaille. Quand on construit notre identité narrative, on tricote les événements de notre vie, tels qu'on les a ressentis, et on essaie de leur donner du sens, de les assembler. Parfois, des schémas reviennent dans notre tricot. Parfois, on évite certaines couleurs. Puis d'autres fois, on échappe une maille. Si une personne de 34 ou de 82 ans se tricote une identité narrative assez douillette pour se confronter, en toute sécurité, à ce qu'elle trouve désagréable, et si elle y mêle des liens profonds avec autrui, ben, peut-être que sa volonté de participer à un mouvement social grandit. Qu'est-ce que je retiens de tout ça? D'abord que, quand viendra le temps de finir ma maîtrise, d'ici un an, le sens de woke sera peut-être à des années-lumière de ce dont parle vraiment mon mémoire. Ensuite, qu'on est probablement tous et toutes woke pour d'autres, selon nos valeurs, la manière dont on les exprime et la configuration des curseurs de notre personnalité. Enfin, que les histoires qu'on semble se raconter sur les woke parlent surtout de comment on utilise les mots comme des briques pour édifier des murs entre nous, au risque qu'ils deviennent très difficiles à franchir. Mais les murs, parfois, ça chute. Suffit de bien placer nos briques. Vous avez aimé ce premier épisode ? Pour ne pas manquer le prochain, abonnez-vous aux histoires qu'on se raconte sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. J'explorerai les histoires qu'on se raconte sur les mêmes. Merci aux spécialistes qui ont participé à cet épisode. Nadine Vincent, du département de communication. Louise Bienvenu, du département d'histoire. Et Jean Descoteaux, du département de psychologie. Merci aussi à Jacques Caillouette, de l'école de travail social et à son groupe de TRS 304. Un merci tout spécial à Safidi, Madeleine, Ablaï, Michael et Anna, pour s'être prêté à une séance photo assez condensée, afin d'habiller ce balado sur les plateformes de l'Université de Sherbrooke. Le texte d'introduction est lu par Annie Glessard, doyenne de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. L'indicatif musical, Songes et Réflexions, est signé par Joël Lupien-Faneuf, compositeur inscrit en développement et réalisation d'une production artistique à l'École de musique. Je m'appelle Madène, et vous avez écouté les histoires qu'on se raconte.